avec le journal de Catherine Dutu. Et bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Son courage et sa ténacité, son génie et son humour ont inspiré des gens à travers le monde entier. Les enfants de Stephen Hawking saluent la mémoire de leur père ce matin. Ce célèbre astrophysicien britannique mort à l'âge de 76 ans. Il avait consacré sa vie à décrypter les secrets de l'univers, de l'humour également. Nous en reparlons dans un instant.
Et puis la levée des barrages soumise à l'approbation de la population à Mayotte à la suite d'un accord conclu avec le gouvernement en vue de mettre un terme au mouvement social qui secoue l'archipel de l'océan Indien depuis 4 semaines. On sera sur place dans un instant.
Elle a eu également l'inquiétude des chancelleries dans le monde entier après que Donald Trump a limogé hier par un simple tweet son chef de la diplomatie. Nous irons à Moscou, à Pékin et à Berlin. Les bons points de la croissance dans le monde, près de 4% attendus cette année, ce sont les prévisions de l'OCDE, l'Organisation du Développement et de la Coopération Économique, qui sont les principaux bénéficiaires. Il en sera question dans le billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, la question du jour, 5 ans après l'élection du pape François, les catholiques français ont-ils changé? On posera la question à l'historien Denis Pelletier.
Il était comparé à Einstein ou Newton, autant connu pour son génie scientifique que pour son talent de vulgarisateur avec sa voix synthétique si particulière. Le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort aujourd'hui à l'âge de 76 ans à son domicile à Cambridge, ont annoncé ses enfants. Il était paralysé depuis des années par une maladie dégénérative. Ce spécialiste des trous noirs était l'un des scientifiques les plus connus du grand public. La correspondance à Londres de Marina Daras.
Vous reconnaîtrez certainement sa voix robotique. À l'âge de 22 ans, Stephen Hawking avait été diagnostiqué avec une forme de maladie rare, une maladie neuromotrice qui l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant et à parler grâce à un synthétiseur vocal. Le physicien britannique était connu pour son travail sur les trous noirs et la relativité et a écrit plusieurs livres scientifiques populaires, dont une brève histoire du temps parue en 88 et vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Mais c'est son humour et sa facilité à vulgariser les théories scientifiques les plus complexes qui lui a valu une certaine gloire. Des Simpsons au talk-show américain en passant par Star Trek, Hawking est devenu un ambassadeur populaire de la science et a toujours veillé à ce que le grand public ait facilement accès à ses travaux.
Jusqu'en 1920, tout le monde pensait que l'univers était essentiellement statique et immuable dans le temps. Puis, on a découvert que l'univers était en expansion. La galaxie lointaine s'éloignait de nous, cela signifiait qu'elle devait être plus proche dans le passé. Si nous extrapolons, nous découvrons que nous avons dû être les uns sur les autres il y a environ 15 milliards d'années. C'était le Big Bang, le début de l'univers.
Le professeur Hawking a été le premier à présenter une théorie de la cosmologie comme une union de la relativité et de la mécanique quantique. Il a également découvert que les trous noirs fuyaient l'énergie et ne s'évanouissaient pas, un phénomène qui est devenu depuis connu sous le nom de radiation Hawking.
Marina Daras à Londres pour France Culture. Tout un symbole à Mayotte. Les manifestants engagés depuis 3 semaines dans une contestation sociale et sécuritaire appellent la population à se rassembler aujourd'hui place de la République à Mamoudzou, le chef-lieu de l'île, pour décider de la levée ou non des barrages routiers. Un accord de principe a été conclu hier entre l'intersyndicale à la pointe du mouvement social, les collectifs, les élus et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Accord de principe sur un plan de lutte contre l'insécurité dans le 101e département français. Un mois de travail, puis une nouvelle évaluation de la situation par le gouvernement et l'intersyndicale mahoraise. Les précisions de notre envoyée spéciale à Mayotte, Sandrine Etoua-Andegue.
L'accord a été trouvé dans la nuit, après une réunion de plus de 5 heures commencée dans une ambiance tendue. À la sortie, Salim Naouda, secrétaire général de la CGT à Mayotte et membre du collectif contre l'insécurité, affiche sa satisfaction.
C'était très houleux au départ. Et puis après, au fur et à mesure des discussions, la ministre et son équipe a compris que la situation de Mayotte n'était pas à prendre à la légère. Et la réunion a permis justement qu'on pose tous les problèmes sur table. Et dans le mois, nous allons voir des actions concrètes qui vont se mettre en place en matière de lutte contre l'immigration, en matière de lutte contre l'insécurité.
Les leaders du mouvement social ont obtenu 15 mesures d'urgence supplémentaires, notamment que la présence de l'État soit renforcée sur le territoire ou que les bandes de fauteurs de troubles soient démantelées. Ce matin, en Assemblée générale, ils proposeront la levée des barrages, mais devant celui de l'aéroport sur Petite Terre, quelques manifestants n'envisagent pas cette option.
Il faut qu'on nous dise ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit réellement? Voilà! On n'arrête pas.
C'est entre eux qu'ils ont parlé, mais personnellement, je ne lèverai pas le barrage.
Le mouvement, il doit continuer parce que en ce moment même, il y a des personnes qui sont agressées, des voitures brûlées. Même si les syndicats ils disent que la grève est suspendue, pour moi, la population doit continuer.
Au moins, dit-elle, jusqu'à ce que cet accord soit signé.
Sandrine Eto'o-Handeg, envoyée spéciale de France Culture à Mayotte avec les moyens techniques de Laurent Macchietti. Mayotte, un îlot de pauvreté dans un océan de misère. 4 décennies de politique publique qui ont mis l'île et tout l'archipel des Comores dans une situation inextricable. C'est un dossier à retrouver à la une de franceculture.fr. Mayotte aux confins de la République, c'est aussi la question que posera Hervé Gardette ce soir dans Du grain à moudre à partir de 18h20.
Et vous écoutez les matins de France Culture, il est 7h06. C'est la suite du journal de Catherine Dutu. La question migratoire, l'une des préoccupations à Mayotte, mais aussi en métropole.
Manifestation à 9h ce matin à Montgenèvre dans les Hautes-Alpes, devant les locaux de la police aux frontières, mise en cause par l'association Tous Migrants, après une maraude dans la montagne enneigée qui a failli mal tourner pour des migrants le week-end dernier. Récit de Cécile de Kervas-Doué.
C'était samedi soir. Comme il l'a fait tout l'hiver, cet habitant de Briançon, menuisier et pisteur secouriste, faisait une maraude sur le col de Montgenèvre, nouveau point de passage des migrants. Dans la neige, il découvre 6 personnes, dont 2 enfants de 4 et 2 ans, originaires du Nigeria, raconte Benoît Ducos.
Donc on est allé les voir, cette famille avec 2 petits-enfants, et que ces 2 personnes avaient porté la maman dans toute la traversée enneigée pour éviter la police. Elle était enceinte de 8 mois et demi, donc elle était épuisée, quoi. Donc là, on a dit, il y a urgence, il faut l'emmener le plus vite possible à l'hôpital.
Sauf qu'à l'entrée de Briançon, ils sont arrêtés par la douane. Ils transportent des personnes en situation irrégulière et sont donc en infraction.
Ils ne voulaient rien savoir. Ils m'ont dit que je n'étais pas une femme, que je n'avais jamais accouché, que je ne savais pas ce que c'était. Il a fallu qu'ils appellent le procureur. Ça a bien pris 1 heure. Et là, ils ont décidé d'appeler les pompiers et la famille a été séparée. C'est fou. C'est pas un traitement digne d'êtres humains, quoi.
Si l'hôpital a exigé de faire revenir le père et les 2 enfants, la famille a ensuite à nouveau été séparée et ni la mère ni les associations ne savent aujourd'hui où ils sont. C'est ce genre de situation qui a conduit le quart des avocats du barreau de Gap à se mobiliser. Et comme à Nice, les décisions de justice prouvent de plus en plus le caractère hors-la-loi des procédures de l'État. Gaëlle Mathieu, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
Donc nous, on a constaté qu'effectivement, fin 2017, des refus d'entrée étaient imprimés, précochés par les services de la police de l'arrêt des frontières. Donc on fait signer aux gens le fait qu'ils sont d'accord pour repartir le plus rapidement possible. Après, est-ce que véritablement ils ont compris ce qu'ils ont signé? J'ai effectivement des doutes sur la compréhension réelle des documents qui leur seront mis.
Jointe par téléphone, la préfecture assure qu'elle s'expliquera sur ces formulaires pré-remplis directement auprès du barreau de Gap.
Selon la préfecture des Hautes-Alpes, l'an dernier, 1850 personnes ont été reconduites à la frontière. L'immigration clandestine au cœur d'un voyage à partir d'aujourd'hui du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb en Algérie puis au Niger. Un nouveau dispositif pour l'accueil des réfugiés en Île-de-France, c'est une information de nos confrères de France Bleu Paris. L'actuel centre de premier accueil de la Porte de la Chapelle va être démonté à la fin du mois au nord de Paris, remplacé par 5 centres dits d'accueil et d'examen de situation répartis dans 5 départements franciliens. Un centre à Paris, boulevard Ney, toujours près de la Porte de la Chapelle. Les autres à Cergy, dans le Val-d'Oise, à Ris-Orangis en Essonne. Un dans les Hauts-de-Seine et un dernier en Seine-et-Marne. Double objectif pour la préfecture, augmenter les capacités d'accueil des migrants. 750 places au lieu des 450 actuelles de la Porte de la Chapelle. Et puis mieux répartir les personnes avec des centres éclatés un peu partout en Île-de-France. C'est par un simple tweet encore un que Donald Trump a annoncé hier le limogé de Rex Tillerson à la tête de la diplomatie américaine. Rex Tillerson, l'ancien homme fort d'ExxonMobil avec lequel le président des États-Unis entretenait des relations notoirement difficiles sur le nucléaire iranien, par exemple. Les 2 hommes étaient en désaccord. Rex Tillerson sera remplacé par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo. Et pour la première fois, c'est une femme qui va prendre la tête de l'agence, Gina Haspel, 61 ans. La Maison-Blanche a mis en avant la volonté de Donald Trump d'avoir une nouvelle équipe au moment d'aborder des négociations historiques avec la Corée du Nord. Donald Trump qui a accepté la semaine dernière l'invitation du dirigeant Kim Jong-un pour une rencontre Washington-Pyongyang d'ici fin mai, afin notamment de discuter de la dénucléarisation. Mais déjà, ce remplacement de Rex Tillerson suscite l'inquiétude dans les chancelleries du monde entier. Tour d'horizon, de Moscou à Pékin, puis à Berlin, d'où nous appellent Jean-Didier Revoin, Dominique André et Cyril Sauvageau.
À Moscou, c'est avec des images de l'émission de télé-réalité de Donald Trump, The Apprentice, où l'on voit le milliardaire prononcer sa célèbre phrase « Vous êtes viré » que la chaîne de télévision publique Russia 24 a présenté le limogeage de Rex Tillerson. Le ministère russe des Affaires étrangères a lui tourné le départ du secrétaire d'État américain en dérision, s'étonnant du fait que personne n'ait encore accusé la Russie des changements de poste intervenus à Washington. Plus sérieusement, l'arrivée de Mike Pompeo, fidèle à la réputation de Faucon, fait redouter un durcissement de la politique étrangère américaine.
À Pékin, le Global Times, ce journal chinois anglophone, se dit surpris par la soudaineté de l'incident. Même si ça fait longtemps que Rex Tillerson et Donald Trump ne s'entendaient plus, écrit le quotidien du peuple, journal officiel du Parti communiste chinois. Sur la Corée du Nord, on a vu qu'ils n'étaient pas du même avis, ajoute le journal. Les précédentes administrations ont eu une approche prudente des relations entre les deux pays, met en garde la presse officielle chinoise.
À Berlin, le limogeage de Rex Tillerson fait craindre un nouveau durcissement de la politique étrangère américaine. Ce départ n'arrange pas les choses, a commenté hier sur Twitter le secrétaire d'État aux affaires européennes, Michael Roth. Pour le chef de file du Parti libéral, Christian Lindner, c'est un nouveau signe de l'instabilité de l'administration Trump. Dans la presse allemande, c'est l'inquiétude qui domine. Pour les commentateurs, le choix de Mike Pompeo, fidèle de Donald Trump et partisan de la ligne dure, n'annonce rien de bon, ni pour l'Europe ni pour l'Allemagne, déjà directement visée par l'offensive protectionniste de la Maison-Blanche.
Son ultimatum à Moscou a expiré. La première ministre britannique Theresa May réunit aujourd'hui son Conseil de sécurité nationale afin de décider d'éventuelles sanctions à l'encontre de la Russie en l'absence d'explications de Moscou sur l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergueï Skripal et de sa fille. Ils avaient jusqu'à hier soir pour formuler leurs vœux sur Parcoursup.fr pour la suite de leurs études dans l'enseignement supérieur. Les lycéens ont désormais jusqu'à la fin du mois pour valider leurs vœux et constituer leur dossier avec CV, lettres de motivation et fiches de renseignements sur lesquels vont se fonder les établissements pour rendre leurs réponses. Mais des bugs sont survenus hier sur Parcoursup.fr car des nombreux étudiants se sont pris au dernier moment pour s'inscrire. Mais pour autant, même si le nouveau dispositif ne prévoit plus de tirage au sort, les nouveaux critères imposés par les universités, les fameux attendus, inquiètent les élèves de terminale à Kim Kasmi.
Louis est en terminale ES dans l'académie de Créteil en région parisienne. Comme beaucoup de lycéens, il a eu du mal à faire son choix parmi la centaine de licences proposées. Un choix rendu encore plus compliqué avec les nouveaux critères de sélection de Parcoursup, comme le type de baccalauréat ou encore les notes obtenues en terminale.
Les facs, elles vont nous sélectionner. Elles vont nous choisir en fonction de notre bulletin. Et donc, en fonction de notre moyenne, il va falloir qu'on adapte les écoles dans lesquelles on veut aller. Moi, par exemple, j'ai pas une moyenne extraordinaire, donc du coup, j'ai dû me priver d'aller dans certaines écoles, alors que pourtant, j'aurais rêvé d'y aller. Entre un élève qui a 10 de moyenne à Henri IV et qui a 10 de moyenne dans un lycée de banlieue, elle va choisir les 10 de moyenne à Henri IV.
Autre difficulté, avec ce nouveau dispositif, les universités demandent des lettres de motivation, voire des CV et des expériences professionnelles, notamment dans les filières sous tension, comme STAPS et Psycho. Sauf que les lycéens n'ont pas tous bénéficié des mesures d'accompagnement prévues par le ministère de l'Éducation.
Tout le monde n'a pas la même aide pour écrire un CV. Alors c'était ce qui était censé apporter les doubles professeurs principaux, sauf que ces doubles professeurs principaux n'ont reçu aucune formation pour nous aider à faire tout ça, et surtout, tout le monde n'a pas ces doubles professeurs principaux.
Les premiers résultats d'admission seront rendus le 22 mai, avec une autre session début juillet pour ceux qui seront sans affectation.
Et contre le principe de sélection à l'université, des syndicats lycéens, l'UNEF et la FCPE appellent à une journée d'action, et notamment de blocage des lycées demain jeudi.